Des données de Statistique Canada, on peut conclure que 2019 aura été une bonne année pour le secteur porcin au Québec, où la hausse des revenus a été plus forte que dans le reste du pays. Jean-Philippe Gervais.
Les revenus dans le porc au niveau national ont augmenté de 11,6 en 2019, puis Québec, ça a augmenté de 15 %. Plusieurs raisons. Une des raisons, c'est qu'on a eu un prix légèrement plus intéressant, mais il faut se souvenir aussi qu'il y a eu une embellie au niveau du prix. Là, je dirais en 2019, là, en avril, mai, là, on a eu une embellie au niveau du prix assez forte parce que, bon, on entrevoyait des gros problèmes d'approvisionnement en Chine avec la pièce porcine africaine. Puis après ça, on a eu la fermeture de la frontière, là, où je pense, si je me souviens bien, là, c'était au mois d'août ou septembre-octobre, ça a repris en novembre. Mais les prix sont restés assez fermes sur le marché. C'est sûr qu'ils ont évolué, ils ont été à la hausse, à la baisse, il y a eu beaucoup de volatilité. Les prix ont été assez fermes et on est bien positionné sur le marché d'exportation au Québec. Si on regarde le succès de nos entreprises, on est bien positionné. Donc, tout ça fait en sorte qu'au niveau du porc, on a eu quand même une hausse appréciable, 15 % en 2019. Ça a été une bonne année.
Il y a bien sûr actuellement les bouleversements dus à la pandémie du COVID-19. Il y a aussi les tensions avec la Chine, ravivées par la décision des tribunaux canadiens d'extrader aux États-Unis la numéro 1 de Huawei, Mme Meng Wanzhou. Même s'il y a représailles chinoises, le Canada pourrait exporter sa viande de porc, estime l'économiste en chef de Financement Agricole Canada, Jean-Philippe Gervais.
Le besoin de protéines est là aussi. Est-ce que ça peut se tourner vers un autre pays? Effectivement. Mais regardez ce qu'elle a fait récemment avec le Canada. On a vite passé outre les mesures qui avaient été imposées là, à la fin de l'été l'année dernière, pour recommencer à exporter de façon significative. Donc, pour moi, le besoin est là en termes de protéines animales. Si la Chine se tourne vers d'autres pays, il y aura toujours, je pense, une demande provenant de d'autres pays importateurs aussi pour le Canada, parce qu'il y a vraiment une pénurie au niveau mondial. Donc, des fois, c'est pas nécessairement d'exporter vers la Chine elle-même, mais c'est de bénéficier de la présence de la Chine et des conditions économiques qui prévalent en Chine pour être capable de bénéficier d'une hausse de revenus. Donc, si elle s'approvisionne d'un autre partenaire, bien peut-être que ça aura quand même un impact pour nous autres là, en rebond. Là.
La forte demande pour de la protéine animale est l'un des facteurs qui permettront au secteur agroalimentaire de se relever plus rapidement de la crise provoquée par la pandémie. J'ai échangé à ce sujet avec Jean-Philippe Gervais.
Au plan international, à peu près dans tous les pays, on prévoit une période assez difficile, une véritable crise financière, des crises budgétaires dans plusieurs pays. Est-ce que dans ce contexte-là, autant ici qu'ailleurs, là, est-ce que vous pensez qu'à l'habitude, comme c'est l'habitude, le secteur agroalimentaire, le secteur primaire même, peut-être plus que les autres, là, va se sortir mieux et plus rapidement d'une période de crise comme celle qu'on traverse que l'ensemble de l'économie?
Oui, je pense qu'effectivement, dans le secteur primaire principalement, parce que je dis toujours, le consommateur change ses habitudes alimentaires. Je parle du consommateur canadien ou étranger, change ses habitudes alimentaires, mais en termes de production primaire, on ne verra pas nécessairement beaucoup d'impact. La surprise de cette crise-là, lorsqu'on réécrira, ou pas réécrira, lorsqu'on fera le sommaire de l'histoire, pour moi, ça reste le changement des habitudes de consommation là, versus à la maison, versus à l'extérieur de la maison et l'impact du service alimentaire. Complètement sous-estimé, par exemple, la demande de crème laitière dans le service alimentaire. Donc, il y a toutes sortes de questions comme ça qu'on aura beaucoup plus de clarté dans le futur pour ça. Mais effectivement, une bonne production primaire, je pense qu'on pourrait avoir un rebond plus rapide, ce qui aide énormément. Il y a plusieurs choses qui aident, mais surtout du côté protéines animales, le fait qu'il y a une demande excédentaire. En raison des problèmes de production, juste la Chine en termes de production porcine, on est encore déficitaire. Et ça, je pense que ça peut donner un bon rebond une fois qu'on. D'ailleurs, on le voit là, sur les chiffres d'exportation en ce moment. Là. La Chine a ouvert ses frontières et on le voit, là, l'exportation en production porcine, entre autres, c'est des chiffres assez appréciables. Donc, pour moi, oui, effectivement, la production primaire va probablement rebondir, va peut-être avoir un creux moins élevé et rebondir plus vite. Dans le secteur de transformation, etc., je pense que la question est de savoir à quelle vitesse la transformation va devoir s'ajuster et à quel coût. Parce que retrouver l'efficacité qu'on avait auparavant, ça va prendre un certain temps. Il y a la distanciation sociale à l'intérieur des entreprises. Il y a toutes sortes de coûts additionnels maintenant qui viennent bousculer un peu là, les plans de production des entreprises. Somme toute, moi, je suis assez... Je pense qu'une des histoires ou un des facteurs de la crise qu'on ne peut pas souligner, c'est c'est l'habileté aux entreprises à vraiment s'adapter et à se retourner très vite là, pour les enjeux qui ont été rencontrés, là, de maintenir le niveau de production qu'ils ont maintenu, etc. Je pense chapeau à l'industrie dans son ensemble. Là, j'inclurais aussi camionnage, toutes les industries connexes là, qui touchent à la filière agroalimentaire.
Et peut-être un mot sur le secteur des grains et des céréales en particulier. Là, il semble se dessiner quelques zones de famine là, à travers le monde. Donc, éventuellement, une demande peut-être plus forte justement pour des céréales, des grains. Là.
Oui, effectivement. Et suite à ça aussi, il y a tout l'aspect de sécurité alimentaire qui va être débattu dans les prochains mois et l'impact que ça peut avoir sur le commerce aussi. Lorsqu'on parle de sécurité, c'est difficile de ne pas toucher au commerce. Et lorsqu'on mélange les deux, bien, on l'a vu au début de la crise, ce que la Russie a fait en termes de fermeture ou en termes de limitation de ses exportations, pas fermer totalement, mais limiter ses exportations, on a vu le prix du blé aussi réagir fortement. Donc, c'est évident d'un côté ou de l'autre, soit que c'est des contraintes ou des actions en lien avec l'offre disponible sur les marchés, ou encore vice-versa du côté de la demande, certaines pénurie, etc., ben, on pourrait s'attendre à un peu plus de mouvement du côté des prix, ben, effectivement.
Les récentes données montrent de toute façon que l'année 2020 avait bien commencé. Tout augurait bien.
On pouvait penser qu'on aurait eu une bonne année. Là. Si on avait des rendements, là, somme toute, moyens, puis si on est chanceux un petit peu plus élevé que la moyenne ou à laquelle on aurait pu s'attendre, avec une demande pour les protéines animales qui était forte. Oui, effectivement, on s'en allait vers... l'année était bien commencée, très bien commencée. Il y a plusieurs secteurs qui étaient en croissance au début de l'année, effectivement. La difficulté de tout ça, c'est de faire des prévisions lorsque tu n'as même pas l'historique de 2019. Ça, c'était la première difficulté. Là, on vient de sauter une barrière un peu. Là. Ça, ça va nous aider énormément parce que, en plus de la COVID, on avait. Il faut tout le temps se baser sur l'année la plus récente pour être capable d'être le plus juste possible. Ça, donc, ça, c'est la première chose. Moi, effectivement, il va y avoir des défis importants en production animale, certainement. En production végétale, j'ai encore bon espoir de voir que. Les impacts de la crise ne seront pas... Bon, c'est sûr qu'en production maraîchère, il y a certains enjeux à voir quel type de production on va avoir en récolte, etc., l'habileté à récolter, bon, etc. Tout ça, ils sont des questions absolument légitimes. Mais j'ai bon espoir que dans son ensemble, dans le secteur végétal, on va avoir un rebond du côté du maïs. Évidemment, là, si on est pour arrêter le déconfinement graduel du côté canadien et américain pour n'importe quelle raison... Bon, ça peut changer la donne, mais je pense qu'on a un certain rebond, une certaine reprise. Le commerce international reste fort. Au fur et à mesure qu'on ouvre les services alimentaires, dans une des surprises de cette crise-là, en tout cas, pour ma part, ça a été l'impact sur le secteur laitier. Je ne m'attendais pas à ça, mais pas du tout. J'avais complètement pas compris, je pense, l'importance du service alimentaire sur le secteur laitier. Donc, si on est capable de rouvrir ce service-là et que le consommateur répond vers la fin du deuxième trimestre, bien, peut-être qu'au troisième ou au quatrième, on continue à avoir de la croissance et que, somme toute, bon, la diminution du revenu. On devrait s'attendre en production animale une année plus difficile qu'en production végétale, là, en raison des changements de consommation, là. On l'a vu dans le secteur de la viande rouge, que ce soit veau, agneau, plusieurs secteurs qui ont eu des changements assez significatifs. Ça va se répercuter sur les revenus là, à la fin de l'année. Là. Même si on est parti du bon pied en 2020, bien, le deuxième trimestre va être difficile et le troisième trimestre et le quatrième trimestre, bien, le rebond va dicter un peu l'impact final, mais somme toute, on peut avoir une diminution des revenus en production animale là, quand on va regarder 2020. Là.
Le rapport de Statistique Canada sur les revenus et les dettes agricoles en 2019 expose des faits très intéressants. Le revenu agricole net réalisé a augmenté de 10,4% au Canada. Au Québec, le revenu à la ferme a augmenté de 8,4%. Pour le secteur végétal, la hausse est de 11 %, mais attention, au Québec comme ailleurs au pays, la production du cannabis a beaucoup influé sur les revenus.
Il y a aussi une particularité, en fait, que je devrais dire avant de continuer, qui est le cannabis, parce que c'est une industrie naissante qui a enregistré une grosse croissance en termes de revenus bruts dans les deux dernières années, et puis l'année 2019 n'est pas différente. Donc, comme les revenus étaient pratiquement zéro en 2017, c'était un peu plus élevé en 2018, puis qu'il y a eu beaucoup plus de revenus dans le secteur production de cannabis en 2019. Quand on regarde les chiffres dans leur ensemble, il faut faire attention, surtout que c'est une production végétale. Donc, si on regarde les revenus dans le secteur végétal, bien, ça peut aussi donner une vision un peu différente si on ne fait pas abstraction du cannabis. C'est pour ça que moi, j'aime tout le temps dire les deux, c'est-à-dire apporter le revenu, par exemple, total. Donc, si je regarde par secteur au Québec, les revenus à la ferme ont grimpé de 8,4% en 2019. Mais si j'exclus la croissance du cannabis, les croissances de revenus dans l'extérieur du cannabis, l'augmentation était de 6,1%. Dans le secteur végétal, l'augmentation en 2019 était de 11% au Québec, mais les revenus, encore une fois, 2019 versus 2018, mais sans le cannabis, les revenus ont augmenté de 4,5% dans le secteur végétal.
Ici Lionel Levac. Au Québec, le revenu net comme tel a augmenté en 2019 de 25%. Quant à l'endettement, sa croissance a été de 11,8%. Ce dernier chiffre n'apparaît pas particulièrement inquiétant puisqu'il montre le dynamisme du secteur primaire et sa volonté et sa capacité à investir. Au revoir.